Bonjour Pauline Valade.
Bonjour.
Je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau livre. On vous connaît dans le monde de l'édition comme historienne. Vous êtes d'ailleurs professeur agrégé au lycée de Nanterre. Vous avez publié chez Champvallon une thèse remarquée et remarquable sur réjouissance monarchique et joie publique. Et aujourd'hui, vous revenez avec un roman, Bruno et Jean. Alors moi qui ai suivi votre parcours, je ne suis pas vraiment étonné. Parce que je vous ai toujours vu avec un roman entre les mains, donc je connais votre sensibilité littéraire. Mais pour notre public, pourquoi cette mutation?
Alors, ce n'est pas vraiment une mutation, parce que tout simplement, depuis petite fille, j'écris des fictions. Voilà, j'ai commencé sur un papier canson que j'illustrais de petits dessins. Et puis, en grandissant, j'ai continué à écrire. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de me plonger dans d'autres mondes, dans d'autres sociétés où je n'avais aucun repère, en fait, des sociétés, des fonctionnements très éloignés de ma propre société, de ma propre époque. Et donc, adolescente, ça s'est traduit par beaucoup de lectures, notamment des écrivains du courant naturaliste du 19e siècle. Et j'ai choisi de faire de l'histoire, justement, voilà, entreprendre ces études, c'était un moyen de répondre à l'envie, mais aussi au besoin de partir vers des sociétés complètement inconnues de moi. Et voilà, c'est un besoin qui m'a nourri. Et voilà, j'avais besoin de ces connaissances historiennes pour pouvoir écrire de la fiction. Donc finalement, c'est pas vraiment une mutation, c'est quelque chose qui était là depuis très longtemps. Et quand je suis tombée sur cette affaire, la part de mystère m'autorisait la fiction. Et c'est pour ça que ça m'autorisait à écrire à la fois du vraisemblable et de l'effectif. Donc à conjuguer finalement les deux passions historiennes et littéraires.
D'accord. Et donc, pour un bon roman, il faut à la base une belle histoire. Quelle est l'origine de Bruno et Jean? Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée et la trame ensuite?
Alors, l'idée, en fait, je suis tombée sur cette affaire pendant mes recherches de thèse. La thèse, je l'ai soutenue en 2016 et donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu après au roman. Au cours de cette thèse, donc sur les réjouissances monarchiques, je lis beaucoup de chroniqueurs, notamment l'un des plus connus, Edmond Jean Barbier, qui écrit une chronique de 1718 à 1763. Donc je le lis avec passion et je tombe sur ces quelques lignes au mois de juillet 1750 où il explique que deux ouvriers auraient commis le crime de S, donc il ne dit pas le mot crime de sodomie, mais il explique, il développe un tout petit peu et il laisse sous-entendre que cette affaire est tout de même étrange, on ne sait pas qui sont ces hommes, on ne les a pas identifiés, ils ne sont protégés de personne. Et surtout, ce qu'il dit, cette phrase qui m'interpelle à ce moment-là, c'est que on n'a point crié, je le cite de mémoire, on n'a point crié le jugement pour éviter de qualifier le crime. Et bon, je passe à ce moment-là, mais je me dis tout de même, c'est étrange parce que ce fonctionnement complètement atypique a dérogé au rituel de l'exécution publique. Je le laisse dans un coin de ma tête. Et puis, donc, après la thèse, quelques années plus tard, je passe dans la rue Montorgueil et je découvre la plaque commémorative qui a été apposée en 2014 par la municipalité de Paris et qui commémore donc à l'emplacement, au croisement de l'ancienne rue Bachaumont et de la rue Montorgueil, là où ils auraient été, non loin de là, où ils ont été arrêtés. Et je me rends compte que la plaque explique que Bruno Lenoir et Jean Diot sont les deux derniers condamnés à mort pour homosexualité. Donc je fais le lien avec ce que j'avais trouvé, ce qui m'avait interrogé dans les archives, dans la chronique de Barbier en particulier. Et le chemin commence à se faire, puisque je vais donc aux archives et je me rends compte que cette affaire est à la fois inexpliquée et inexplicable du point de vue de l'historien.
D'accord. Oui, et alors justement, vous avez voulu des preuves, des sources, parce que vous êtes à la base historienne, pas l'oublier, et donc vous êtes partie aux archives. Et, oui. Et là, qu'est-ce que vous avez trouvé, et pourquoi ne pas avoir fait un livre d'histoire?
Alors, ce que j'ai trouvé, les archives qui concernent l'affaire de Bruno Lenoir et Jean Diot se divisent en deux catégories. D'abord, il y a les sources policières, la fameuse série Y, et on tombe sur le carton Y 10132, pour être exact, où le dossier est intitulé « Affaire Lenoir et Diot, janvier-mai 1750 ». Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce carton, dans ce petit dossier, qui est finalement pas très épais? On va trouver le procès-verbal de leur arrestation, le 4 janvier 1750, leurs deux interrogatoires, le 7 et le 28 janvier. On va trouver la déposition des témoins, puisqu'on a convoqué des témoins, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, la requête du procureur du roi, et puis des notes qui indiquent la sentence qui se trouve, elle, dans les archives du Parlement. Donc je suis aussi allée voir les archives du Parlement, c'est la deuxième catégorie d'archives qu'on a sur cette affaire. Dans cette documentation, on ne va pas avoir grand-chose. On va avoir la sentence du procureur criminel et puis la sentence du Parlement criminel. En dehors de ça, on n'a rien d'autre sur cette affaire. Et puis, on a bien sûr les chroniqueurs, dont je parlais tout à l'heure, qui disent quelques mots sans pudeur. En tout cas, ils le disent avec une certaine incompréhension, puisqu'ils expliquent que le soir du 6 juillet 1750, vers 17h, on va brûler sur la place de Grève, donc l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, deux ouvriers inconnus de la population. Point. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a sur cette affaire. Et pourquoi je n'ai pas fait un livre d'histoire? Parce que, justement, ce qui m'intéressait, c'était de fouiller dans ces archives et d'être certaine qu'on ne puisse pas l'expliquer. Et quand bien même on aurait pu l'expliquer, j'aurais peut-être fait certainement même ce même travail. Ce qui m'intéressait, c'était justement, on ne connaît quasiment rien de ces deux hommes, puisque ce sont deux hommes du menu peuple, comme on dit. Ils n'ont laissé aucune trace. Et donc, ils donnent, en tout cas à l'historien ou à l'écrivaine, ils donnent la possibilité d'inventer une vie par la fiction, donc, et de leur redonner une dimension humaine, tout simplement. Mais pour écrire cette fiction, pour moi, c'était fondamental d'aller chercher et de nourrir cette fiction de toute ma connaissance historienne, de par ma formation, mes lectures, des centaines d'heures passées aux archives, et y compris d'aller fouiller dans les archives policières, encore une fois, qui me permettaient d'avoir accès, ou du moins de me représenter le milieu homosexuel de cette époque, qui est finalement très banal.
Alors, qu'est-ce que ça vous apprend des archives de la police, bien sûr, mais aussi du contexte juridique global de cette époque?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans l'affaire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que je dis que leur condamnation n'est pas explicable, certes, au regard du contexte de l'époque, aucun homosexuel n'était promis au bûcher ou à aucune exécution. On y reviendra sans doute, mais il y a eu des homosexuels condamnés, mais ils l'étaient parce qu'ils étaient criminels par ailleurs, ce qui n'est absolument pas le cas de Bruno Lenoir et Jean Diot. Donc, étant donné que c'est inexplicable, on pourrait penser qu'il y a eu un vice de forme, il y a eu quelque chose dans la procédure judiciaire qui ne s'est pas déroulé normalement. Or, justement, on apprend que quand on regarde toutes les étapes de la procédure, tout a été respecté. La procédure criminelle est totalement classique, il n'y a aucun soupçon de corruption, il n'y a rien. On apprend que le 4 janvier 1750, ils sont arrêtés vers 23h du soir, donc près de la rue Montorgueil. Ils sont directement amenés chez le commissaire Jacques-François Charpentier, un petit peu plus haut, rue Saint-Denis. Et à partir de là, commence la procédure. Et la procédure se fait avec les quatre grandes phases de la procédure criminelle. Il y a d'abord l'information, puisqu'on va chercher à avoir des témoins, et on les a. On va d'abord convoquer les trois militaires du guet qui circulaient ce soir-là et qui ont arrêté Bruno et Jean. Ensuite, donc on a cette information, on va trouver les témoins, on va aussi convoquer trois autres civils qui passaient cette nuit-là dans la rue. Ce sont des riverains, en fait, de la rue, qui sont fils d'un marchand de fer. Et ils vont aussi témoigner. Et leur témoignage est très intéressant parce qu'on va se rendre compte que, en réalité, rien n'est certain. Et la déposition de ces témoins épaissit l'obscurité qu'il y a sur cette affaire, puisque, à la différence des témoignages des policiers, eux montrent, il faut lire un petit peu entre les lignes, puisqu'on a leur témoignage à travers la plume du greffier, bien sûr, mais ils ne sont pas tellement sûrs de ce qu'ils ont vu. Et d'ailleurs, leur témoignage prête un peu à confusion. Donc, on a ces témoignages. Et une fois qu'on les a, on a la deuxième phase de la procédure qui est le récollement. Le récollement, c'est lorsqu'on demande aux témoins de confirmer quelques jours plus tard ce qu'ils ont dit. On va leur lire leur déposition. On leur demande s'ils confirment et ils signent. Cette procédure est respectée. À la suite de cela, on a les papiers du lieutenant criminel qui ne cesse de dire qu'il faut continuer l'information et l'instruction de cette affaire. Donc l'instruction, c'est la troisième étape de cette procédure et elle est très importante parce que c'est cette phase-là qui va faire basculer une affaire assez, une affaire banale vers le drame que l'on connaît, de manière encore une fois inexpliquée. Puisque l'instruction, à travers donc la décision du lieutenant criminel, mais aussi du procureur criminel du roi, ils vont considérer que les témoignages, même incertains, étant donné qu'ils ont été confirmés par les témoins eux-mêmes, vont devenir des preuves légales. Donc ce qui était incertain devient par leur volonté, finalement très arbitraire, quelque chose de probant. Et à partir de ce moment-là, à la fin du mois de janvier, on voit que tout n'est pas joué, bien évidemment, mais beaucoup de choses vont déjà dans le sens de leur condamnation. Alors qu'encore une fois, dans les deux interrogatoires de Bruno Lenoir et de Jean Diot, on leur demande ce qu'ils faisaient là. S'ils ont des antécédents avec la police, la réponse est toujours non. La police confirme d'ailleurs. Des antécédents de violence avec la justice, la réponse est toujours non. Donc, pourquoi poursuivre davantage l'instruction? Là est le point d'interrogation. Et puis, à la fin de cette instruction, il y a la quatrième et dernière étape, qui est la confrontation entre les accusés et les témoins, qui, là aussi, pose question, puisque, certes, les témoins répètent ce qu'ils ont dit, et les accusés répètent aussi ce qu'ils ont eux-mêmes déposé lors de leurs interrogatoires. Mais on se rend compte que la confrontation, encore une fois, est très orientée, puisqu'on ne laisse quasi pas la parole à Bruno et Jean, si ce n'est pour répondre par oui ou par non. Et on redéveloppe longuement ce qu'ont dit par ailleurs les témoins. À l'issue de ces quatre phases, au mois d'avril, le 11 avril 1750, un procès va avoir lieu au Parlement criminel. Donc c'est ça, c'est ce type de document qu'on a, et encore de manière très, 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 très mince dans les archives du Parlement, où le procureur du roi requiert immédiatement la peine du bûcher. Et le 27 mai 1750, le procureur répète sa requête, et le Parlement va prononcer sa sentence, qui sera donc la peine du bûcher. Donc, qu'est-ce que nous apprend cette affaire? Elle nous apprend à la fois la chronologie précise de l'affaire de Bruno Lenoir et Jean Diot, mais aussi le fait que, bien qu'inexplicable, la procédure s'est passée de manière tout à fait normale. Et c'est ça qui est intéressant, parce que, en tant qu'historienne, même en n'étant pas du tout spécialiste du milieu homosexuel et pas du tout non plus du milieu judiciaire de l'époque, le point d'interrogation demeure, persiste, on bute derrière ce point d'interrogation. Donc, on pourrait ne rien en faire. On pourrait écrire un livre sur la justice en disant, voilà, il y a un exemple de justice qui interroge. Ou alors, on prend le parti d'écrire la vie de ces deux hommes qui, finalement, ne nous sont connus qu'à travers les archives qui les ont condamnés. C'était ça qui m'intéressait.
Oui, alors, ils nous sont connus qu'au travers des archives. Bruno et Jean, on a parlé déjà pas mal, Bruno Lenoir et Jean Diot. Quelles sont leurs origines sociales? Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu? Qui sont-ils?
Oui. Alors, on sait peu de choses d'eux, parce qu'ils n'ont laissé aucune trace, si ce n'est les quelques mentions qu'on a d'eux lors du procès verbal de leur arrestation et puis un peu par la suite, puisqu'on va toujours répéter les mêmes informations. Bruno Lenoir est natif de la ville de Douai, en Flandre. Donc c'est une ville qui va être française seulement à partir de 1713. Juste avec cette information, moi, en tant qu'historienne et en tant qu'écrivaine, j'entends déjà un accent. Et cet accent, on peut le supposer, peut-être que c'est une surinterprétation de ma part, mais il sait écrire, il a quelques notions et il va signer Brino. Donc on peut peut-être entendre un accent, il pourrait parler Brino, par exemple, on pourrait l'entendre comme ça. Il a entre 20 et 25 ans, encore une fois, on ne connaît pas son âge exact à l'époque, bien sûr, et surtout, il est garçon cordonnier. Donc il est arrivé de Douai, mais il a déjà une place dans ce milieu très encadré de l'artisanat. On ne sait guère plus de lui. Voilà, il vit dans le quartier de la Sorbonne, chez son maître, voilà, le cordonnier, c'est tout. Et Jean Diot est un homme un peu plus âgé, il a une quarantaine d'années. C'est un homme qu'on qualifie dans les archives très vite de gagne-denier. Et c'est intéressant parce que si on lit d'autres archives, toujours celles qui les ont condamnées, on se rend compte qu'il n'est pas gagne-denier. En réalité, il est domestique chez une veuve charcutière dans le quartier des Halles. Et le simple fait de mentionner gagne-denier et non pas domestique chez la charcutière systématiquement montre aussi le mépris qu'il y avait pour ce type de métier et de personnes qui venaient de... Du menu peuple, comme on le disait. Les seules petites mentions qu'on a, c'est que au départ, le greffier écrit non pas Jean Diot, mais Jean Adieu. Et là aussi, peut-être qu'on peut entendre la voix, ou en tout cas l'accent, la façon de parler de cet homme, puisqu'il ne se présente pas comme Jean Diot, mais Jean Dieu. Et donc, voilà, on peut, là aussi, ça donne matière à l'écrivaine pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il parle comme ça. Jean Adieu, voilà, on peut en faire quelque chose. Et le dernier petit détail qu'on a de lui, c'est que il a un bandeau sur un œil, donc il lui manque un œil. Il est voilà, il habite rue de la Fromagerie, derrière l'église Saint-Eustache, dans le quartier des Halles. C'est tout ce qu'on sait de ces deux hommes. Voilà.
D'accord. Il y a aussi toute une série de personnages secondaires. Parmi ces personnages secondaires, Rosine, qui moi m'a particulièrement intéressé dans son rapport à Bruno au début du roman, et puis d'autres personnages encore. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur eux? Qui est Rosine d'ailleurs?
Alors Rosine, c'est une, elle est blanchisseuse, donc c'est un personnage de fiction hein, qui accompagne Bruno et Jean. Elle est blanchisseuse, c'est une forte tête, c'est un fort caractère, semblaient l'être souvent les blanchisseuses. Je me suis inspirée d'un vrai personnage, d'une vraie personne qu'on trouve dans les archives et qui a été traitée par, entre autres, Arlette Farge. C'est une certaine Madame Mongeant. Madame Mongeant est une femme qu'on connaît encore à travers les archives de police parce que c'est la femme d'un artisan issu de la petite bourgeoisie. Et c'est une femme qui va exprimer très vite le désir de vivre autre chose que sa condition d'épouse, d'artisan. Elle veut, cette Madame Mongeant, vivre librement, elle veut incarner un autre modèle de féminité. Et puis finalement, on connaît cette Madame Mongeant parce que son mari va finalement porter plainte en 1775 et on se rend compte que la vision, le portrait qu'on a de cette Madame Mongeant, c'est en réalité dû à la plume très imaginative du commissaire de police qui la décrit comme une femme complètement débauchée. En tout cas, les études sur cette femme montrent que, certes, on l'a à travers le prisme policier, mais voilà, c'est une femme qui est prise d'une autre liberté. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et c'est Rosine porte aussi cette volonté de s'affranchir de la condition féminine telle qu'elle était attendue à l'époque. Elle est célibataire, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement très bien perçu à l'époque. Et surtout, dans le roman, donc ça, voilà, j'insiste, c'est la partie fictive, elle va prendre Bruno sous son aile lorsqu'il arrive de Douai, et elle va considérer que cet homme peut lui servir de garantie. C'est un ami, c'est un frère, parfois, pourquoi pas le faire passer pour son mari. Elle comprend très vite que Bruno est ailleurs. Bruno est certes son ami, mais elle pressent que Bruno est un homosexuel, même si on ne disait pas le terme à l'époque. Et donc, ce personnage, pour moi, est important parce que c'est le seul personnage secondaire féminin, d'ailleurs, dans cette histoire. Mais c'est aussi, avec son intuition féminine, c'est elle qui va porter tout au long du roman le pressentiment de ce qui peut se passer. Elle vit avec l'angoisse que Bruno se fasse arrêter s'il devient réellement chevalier de la Manchette, comme on disait à l'époque. Donc elle va porter cette angoisse et aussi cette lucidité sur le sort de certains homosexuels dans ce Paris de 1750. Ça, c'est le premier personnage secondaire, mais il y en a deux autres. Il y a un personnage qui s'appelle La Joie dans le roman. La Joie, il incarne l'homosexuel libre. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'était aussi d'en faire une figure comme on les trouve dans les archives de la Bastille, quand on se plonge dans ce milieu souterrain. Il incarne la liberté de vivre sa vie sans hypocrisie, avec authenticité. Mais il incarne certes cette liberté officieuse, cette liberté cachée, mais il a intégré tous les codes. Il a intégré tous les codes de la prudence. Et ça, c'est très important dans ce milieu. En tout cas, c'est décrit comme ça aussi dans ses archives, puisque les policiers surveillaient, une partie des policiers surveillaient ce milieu. Donc, c'est grâce à ses archives qu'on le sait. Et il va enseigner toute cette prudence, tous ces codes à Bruno. Mais ce qui va arriver à la joie, voilà, son arrestation et puis plus, j'en révèle pas plus, montre que finalement, ce qui va arriver au personnage, c'est comme si la joie de vivre, au fond, leur était interdite. Et puis, il y a un troisième personnage, le plus jeune, qui s'appelle Demi-Lune. Demi-Lune parce qu'il n'est pas identifié, il ne connaît pas son prénom. Il incarne les milliers de jeunes garçons, enfin de jeunes enfants qui sont abandonnés et qui vivent seuls dans la rue. Ça aussi, c'est un type de personne qu'on retrouvait souvent dans le Paris des années 1750. À l'origine, c'est un garçon qui se prostitue pour vivre. Il y en avait beaucoup, on les trouve dans ces archives-là. Il va accompagner le groupe, c'est un ami de Bruno et Jean, mais ce qui m'intéressait, c'était d'en faire un témoin de ce drame malgré lui. C'est quelqu'un qui va, par exemple, il sculpte beaucoup, il a un talent pour graver, et il sculpte tout ce qu'il peut sur des pierres, des blocs de pierre dans les chantiers de Paris ou sur les murs. Et ça, c'est un petit clin d'œil à la pratique des graffitis de l'époque que, voilà, que je trouve absolument fascinante. On connaît les graffitis de Rétif de la Bretonne, on sait qu'il y en avait beaucoup d'autres qui ont évidemment disparu. Et donc, il laisse des traces de ses amis sur ses murs. Ces traces, évidemment, disparaissent, à l'image de ce qu'on connaît de ces deux hommes. Tout a disparu. Et puis, le dernier point, c'est que ce personnage sera le dernier témoin de la mort de Bruno et Jean. Il va monter sur les toits et les toits de l'hôtel de ville pour voir ce qui se passe sur la place. Et il est très souvent, au cours du roman, mais à la fin surtout, aveuglé par les larmes et la poussière. Quelque part, il incarne à la fois voilà, ces traces qui ont disparu et puis un peu de cette myopie historienne qui finalement est la nôtre.
D'accord. On l'a vu dans vos réponses, on passe sans cesse de la fiction à la réalité historique. Quel type d'écriture avez-vous adopté justement pour ce rapport entre fiction et réalité? Il y a beaucoup de dialogues dans votre roman. Là, je suppose qu'on est tout à fait dans la fiction. Oui. Comment avez-vous conçu votre écriture?
Alors, il y a beaucoup de dialogues parce que pour moi, c'était un moyen de les faire vivre, de faire entendre leur voix, leur façon de s'exprimer, avec la familiarité, l'amitié, la simplicité, parfois même la vulgarité qui était tout à fait banale et naturelle. Les seuls dialogues qui se rapprochent le plus de ce qui de la réalité historique, ce sont les interrogatoires de Bruno et Jean, où j'ai fabriqué un dialogue plus naturel à partir des interrogatoires. Mais en dehors de cela, évidemment, tout est fictionnel. Le type d'écriture, alors. Pour moi, le pari, c'était de créer une empathie avec ces deux personnages, Bruno et Jean. Et pour moi, créer cette empathie nécessairement passait par une écriture qui allait immerger le lecteur. Ça, pour moi, c'était quelque chose de très important. Et donc, c'est, je crois, une écriture très un peu naturaliste, en tout cas très sensorielle, qui va se nourrir de tout ce qu'on connaît finalement de cette époque. Et donc, c'est ici, je pense, qu'on peut relier toute la connaissance historienne avec une plume plus vagabonde. Donc, il faut aller chercher dans les archives policières. Voilà, on y revient toujours parce que ça nous permet d'avoir une approche très sensitive sur les bruits, sur la vision, sur voilà, les archives municipales aussi. Voilà, c'est une écriture qui, me semble-t-il, était nécessaire pour immerger le lecteur, et ne pas en faire un simple spectateur.
Vous parlez d'écriture sensorielle, c'est tout à fait ça. Il y a un recours aux émotions qui est permanent. On baigne dans cette atmosphère. On est dans les années 1750. C'est l'époque de Condillac. C'est l'époque des sens. On y est sensible tous les deux. Je me souviens d'un cours à ce sujet. Ça a une place vraiment très importante dans le roman. Il y a beaucoup de scènes, je pense par exemple au feu d'artifice, où la vue, les odeurs sont tout à fait essentielles.
Oui, parce que je pense que la vie au XVIIIe siècle dans les rues de Paris, dans les espaces publics, sont très sensorielles. La vie est très sensorielle. Tous les moments sont appellent une certaine synesthésie en fait des sens. C'est le cas dans les premières scènes, puisque ce sont des scènes de réjouissance, mais on a tous les cinq sens. On a la vue, on a l'ouïe, on a l'odeur, on a le toucher. Et même la promiscuité qui était celle des rues de Paris me semble importante, parce que ça jouait sur les comportements, sur les réactions, sur la violence aussi, qui était prédominante. Quelle source on a pour mener ce type d'écriture? Je crois que on n'a pas un seul type de source. Je crois que il faut embrasser toutes les sources et embrasser justement toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, parfois même en négatif, nous donnent une approche justement de ce que c'était. Je parlais des archives policières, mais les archives policières, lorsque par exemple, je donne des exemples dans le désordre qui sont dans le roman, par exemple. Lorsqu'elle réglemente ses archives de police, la taille des enseignes au-dessus des boutiques, elle les réglemente parce que les enseignes se balancent au vent beaucoup trop fort et qu'elles percutent parfois les carrosses qui passent. Juste avec cette réglementation, on entend le bruit des enseignes qui se balancent, on entend les carrosses, on entend tout. Et donc, avec la moindre archive, finalement, on peut se représenter une scène très très sensible, très sensorielle finalement. Toujours dans les archives policières, on a les rapports des inspecteurs sur ce qui se dit, sur les bruits, sur les odeurs pendant autour d'un feu d'artifice pendant un soir de fête. Lorsque les gens vont déposer plainte chez un commissaire, on entend les bruits dans un immeuble, la dispute, les voix, la promiscuité, l'espace public et privé qui est très, 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 très poreux finalement. Rien n'est séparé. On peut percevoir beaucoup de choses. Dans les archives municipales aussi, quand on a des réglementations sur la voirie, sur les travaux dans Paris, sur ce que doivent être les bords de Seine, boueux, où on y entrepose la marchandise, où on fait attention à ce qui traîne dans les bords de l'eau ou pas, on a une restitution quand même très visuelle de cette capitale-là en 1750. Et puis, on peut aussi recourir aux archives du fort privé avec plus de prudence, puisque les écrits du fort privé parisien à cette époque nous livrent un regard, bien sûr, sur la capitale, sur ce qui se passe, avec une prudence, puisque les auteurs sont issus de la bourgeoisie et ou de la noblesse. Donc, ce ne sont pas des gens qui vivent dans la rue, mais en tout cas, ils disent quelque chose en négatif, là aussi, de la peur de la rue, de la promiscuité, des dangers. L'angoisse d'une violence omniprésente, de la mort omniprésente aussi. Donc, on peut, si je peux dire, faire feu de tout bois, quelque part, avec prudence, bien sûr, et rigueur, mais on peut saisir cet environnement très sensoriel partout, je pense, avec beaucoup de sources. Peut-être toutes les sources, justement.
J'en suis aussi persuadé. Alors, il y a deux endroits que vous avez évoqués, là. J'aimerais que vous reveniez un tout petit peu dessus. C'est d'une part la rue. On a l'impression de lire Arlette Farge quand on vous lit. Vous avez un vrai talent pour recréer la rue. Et puis, le fleuve, la Seine. Vous en avez parlé aussi. Cette Seine qui charrie un peu tout. Qui charrie du bois d'abord, qui vient de beaucoup plus haut, qui vient de l'amont, du Morvan notamment, et qui s'entasse sur les quais, qui charrie les cadavres, qui charrie des animaux en putréfaction. Donc, est-ce que vous pourriez, pour moi, c'est vraiment essentiel dans le roman, en tout cas dans le début du roman.
Oui, alors l'écriture, bien sûr, du roman, mais aussi dans mes travaux d'histoire, hein, sont. doivent quelque chose au travail d'Arlette Farge, c'est incontestable. Oui, parce que les rues de Paris sont symptomatiques de la vie à l'époque, et pas seulement pour le menu peuple. Les rues dans Paris, à l'époque, ne sont pas, sont des rues qu'on traverse, bien évidemment, mais ce sont des rues où l'on stationne bien davantage qu'aujourd'hui. Ou en tout cas, au 19e siècle. Déjà, on n'a pas tout à fait la même, le même vécu dans la rue. C'est un espace public, bien évidemment, mais où va se vivre aussi la vie privée. La vie familiale, la vie du voisinage, la vie amicale, la vie professionnelle aussi. On peut travailler dans la rue sur un atelier, on peut cuisiner dans la rue assis sur un tabouret, éplucher ses légumes. On peut se retrouver entre voisins ou pas autour d'une barrique dans laquelle on met de la paille et qu'on brûle et on se chauffe autour de ce point-là. On stationne beaucoup, on est très immobile dans la rue. Et donc, ça donne des scènes de vie qu'on perd très, très vite dès lors que les autorités municipales vont réglementer, finalement, le stationnement dans la rue, la circulation des flux dans la rue. Donc, voilà, la rue est symptomatique de cette époque. Et puis, c'est là, je pense, quand on regarde dans les archives, quand on essaie de scruter la rue, tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y joue de manière officielle ou officieuse, je pense que c'est là qu'on peut saisir ce qui me fascine en tout cas, ce que Pierre Michon appelait les vies minuscules, finalement, ce qui ne laisse pas de traces, ce qui est furtif, ce qu'on entreaperçoit parfois à peine dans les archives. C'est là que je trouve que l'histoire devient fascinante. Donc la rue est très importante dans le roman. Et pour quiconque veut parler de Paris à l'époque, bien sûr. Et puis, effectivement, il y a la scène qui, en soi, est peut-être un personnage, en soi, dans le roman. La scène, à l'époque, c'est un fleuve à la fois très vivant, très mystérieux, mais aussi très puissant pour beaucoup de choses. Parce que, d'abord, c'est un fleuve très vivant, parce qu'on va travailler sur la Seine. La Seine permet de livrer des marchandises à la capitale. La Seine accueille, par exemple, vous parliez du bois. On va travailler dans la Seine, parfois au péril de sa vie. C'est le cas des ouvriers du bois flotté, comme on les appelle. Ces hommes qui donc se mettent au milieu du fleuve, près des piles, près des piliers des ponts, pour recevoir les troncs d'arbres qui sont mis à l'eau bien en amont et qui vont glisser par le courant jusqu'à la capitale. Donc leur travail consiste à récupérer ces troncs d'arbres et à le faire sécher et puis à l'utiliser pour, entre autres, pour les constructions parisiennes. Donc on y travaille. Rosine, blanchisseuse, travaille sur les bachots, sur les bords de Seine. C'est là qu'elle fait la lessive. C'est un espace où on joue. On se lave, on boit aussi l'eau de la Seine. C'est aussi un espace donc de vie. C'est un espace à la fois, enfin également mystérieux, parce que bien qu'omniprésent dans le fonctionnement de la capitale, les Parisiens peuvent ne pas s'apercevoir de la Seine. Ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais il faut pas oublier que les ponts à l'époque sont des ponts habités en dehors du Pont Neuf. Ils sont construits. Donc, on a tout à fait la possibilité, à l'époque, de traverser la capitale sans se rendre compte qu'on traverse un fleuve, puisqu'on le pont est finalement une rue habitée, construite comme les autres. Donc, on peut ne pas voir le fleuve, on peut vivre très, très loin de cet espace. Pour autant, c'est un espace... Voilà, j'ai dit aussi qu'il était très puissant, et ça, c'est important, parce que les bassins qu'on a construit plus tard en amont pour réguler son débit, n'existe pas à l'époque. Donc le débit de la Seine est beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, par exemple, ce qui en fait aussi un espace dangereux. C'est un espace où l'on se noie beaucoup. D'ailleurs, il y a une scène au début du roman, assez classique, assez banale. On ne sait pas nager à l'époque. Et de surcroît, ramener le corps d'un noyé chez un commissaire était rémunéré. Donc on avait tendance à pas nécessairement porter secours à la personne. On s'y noie, on y jette aussi tout ce qui est l'indésirable. On y jette son corps quand veut se supprimer. On y jette voilà, l'infanticide, l'animal en putréfaction, on y jette voilà, les carcasses de boucheries, c'est finalement un tout à l'égout. Et dans le roman, ça va, cet espace va prendre de la place, d'abord parce que Bruno y voit un espace de mélancolie. C'est un endroit où il voit, ce qui est très rare à l'époque, on ne connaît pas son visage, hein, on n'a pas accès à des miroirs quand on est homme et femme du peuple. Donc il y voit son visage. Et en même temps, la profondeur de la scène lui donne une mélancolie parce qu'il a très bien conscience de tout ce qu'il y a au fond de la scène, de toutes ces vies minuscules dont on ne parle plus, qui sont supprimées et qui nourrissent aussi la noirceur, la conscience obscure de la capitale. Et c'est quelque chose qui va courir tout au long du roman.
Alors c'est vrai, il y a une vraie volonté de faire vivre ces vies minuscules. Et je lisais un article il y a quelques semaines dans un quotidien, dans un grand quotidien, sur votre roman. Le journaliste parlait de roman historique. Vous sembliez plus nuancé sur le terme de roman historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, le roman se passe entre 1749 et 1750, donc la dimension historique est incontestable. Oui, Bruno et Jean est un roman historique, mais pas que, selon moi. C'est un roman historique parce que le roman s'ouvre sur une scène de réjouissance en 1749, à l'issue de la paix, après la guerre de succession d'Autriche. Donc le cadre historique est d'entrée posé. Le roman écrit aussi, montre, enfin, immerge, j'espère, le lecteur dans la vie de l'époque, avec beaucoup de menus détails, qui n'en sont pas forcément, mais comment est-ce qu'on se nourrit des restes dans un marché, comment est-ce qu'on la vie dans un immeuble, qu'est-ce que c'est, les voisins sont au courant de tout, voilà, on va, qu'est-ce que c'est que la vie dans un cimetière, par exemple, qui est beaucoup plus cette vie est beaucoup plus vivante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc bien sûr, la dimension historique est nécessaire. Bien sûr, elle est très mise en avant, je pense. Pour autant, pour moi, Bruno et Jean n'est pas seulement un roman historique parce que, alors ça n'engage que moi, mais c'est un roman qui n'offre pas, je pense, une évasion, divertissante ou pas, qu'on peut retrouver chez certains romans historiques. Et dans la mesure où cette affaire a un écho à travers les siècles, le 18e, le 19e, le 20e, peut-être le 21e aussi. Pour moi, ça en fait un roman qui est aussi social, en tout cas. Et c'est en ça que je voulais modérer la dimension, voilà, ou en tout cas la caractéristique du roman historique. Oui, c'est un roman historique, mais ça n'est pas seulement ça, puisque l'écho avec aujourd'hui, avec le milieu homosexuel, mais pas que, ça pose aussi des questions sur la liberté de vivre sa vie, la liberté d'une certaine authenticité, qu'est-ce que c'est que la tolérance, l'intolérance, qu'est-ce qui décide de ce qui est dans la norme ou dans la marge. Tout ça, ce sont des questions finalement intemporelles et qui nuancent, je trouve, l'appellation du roman historique. Voilà, c'est pour ça que je voulais nuancer.
Je comprends. Et en tout cas, l'étudiant qui s'intéresserait à la société urbaine à Paris au XVIIIe siècle y apprendra beaucoup, beaucoup de choses. Ultime question, en quelque sorte. Donc, je ne peux qu'inviter les lecteurs à acheter le livre, parce que c'est vraiment passionnant. Mais une dernière question à laquelle je tiens. Quels sont vos projets pour l'avenir? Est-ce que vous allez revenir vers l'histoire classique ou est-ce que, au contraire, vous allez donner libre cours à votre plume et envisager un nouveau roman? Quels sont vos projets pour le futur?
Alors, je ne vais pas faire l'un ou l'autre. Je vais continuer les deux. Je vais poursuivre les deux. La littérature et l'histoire ne sont pas forcément contradictoires tant que ces domaines sont bien délimités. Voilà, je travaille sur deux projets en histoire et j'ai commencé un deuxième roman qui, celui-ci, sera contemporain. Parce que, comme je le disais au début, ce sont deux facettes qui m'ont nourri et qui m'ont accompagnée, y compris dans mes études en histoire. Et je réfléchis aussi beaucoup à ce que peut la littérature en histoire et inversement. Et voilà, Yvan Jablonka a beaucoup travaillé sur le sujet aussi. Et il dit, par exemple, dans son ouvrage « L'histoire est une littérature contemporaine », il dit « La littérature, je le cite, c'est de la recherche ». Peut-être qu'on peut aussi... alors évidemment, il ne
s'agit pas de... C'est une source historique, la littérature ?
Alors, oui et non. Il faut nuancer parce que la littérature reflète le réel quand l'historien doit l'expliquer. Et quel historien n'a pas lu de la littérature pour, en plus des archives, bien évidemment, et de la rigueur intellectuelle que cela nécessite, quel est l'historien qui n'a pas lu de la littérature pour se représenter à soi-même ce que pouvait être un trait de caractère d'une époque, un personnage, une manière de sentir, de traverser l'époque? Je pense que ça fait partie des nourritures intellectuelles de l'historien. Et inversement, la connaissance historique nourrit la littérature. Pour moi, en tout cas, dans mon parcours et puis dans ce projet-là, c'était une manière de donner une certaine légitimité à cette immersion, puisque c'est fondé sur énormément de sources, en tout cas une connaissance historienne la plus précise possible, j'espère. Voilà, ça donne la légitimité à l'écrivain, peut-être, cette connaissance historienne. Et puis, ça fait aussi peut-être tout le sel de la lecture. Et ça renforce peut-être aussi les questionnements qu'on peut soulever et en tout cas se laisser bousculer par cette histoire.
Donc, un roman plus actuel, plus contemporain, et des livres d'histoire aussi.
Des livres d'histoire, oui. Dans le parcours que j'ai initié, voilà, un livre sur des personnes qui sont issues de la rue et qui incarnent une façon d'être, une façon de travailler, voilà, qui incarnent leur époque et mais ce sont voilà, des gens de la rue, encore des gens du menu peuple qui m'intéressent.
On sent qu'il y a aussi certains quartiers qui vous intéressent particulièrement. Il y a des
quartiers des Halles.
Oui, par exemple, le quartier des Halles. Oui. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Pauline Valade, pour ce livre qui est tout à fait passionnant et j'espère qu'il attirera beaucoup de lecteurs.
Merci à vous. Merci.